10 années hors normes, le podcast. À l'occasion des 10 ans d'hors normes, nous avons souhaité revenir sur des moments qui ont marqué la vie du magazine. Entre anecdotes et temps forts, Jean-Luc Fournier, le directeur de la rédaction, nous emmène dans les coulisses et revient sur ces 10 années hors normes. De retour pour l'épisode 6 des 10 années hors normes, le podcast, avec toujours Jean-Luc Fournier, fondateur d'Hors Normes et toujours directeur de la rédaction. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour Lisa.
Alors on s'était quitté en 2016, ce moment où tu sors la tête de l'eau après 2 années compliquées, une longue bagarre comme tu le disais, on l'a raconté dans l'épisode précédent. Et là tu m'as confié que tu songeais à cesser à ce moment-là de publier hors normes et t'es même assez décidé. Alors toi qui nous as dit tout du long que tu ne voulais jamais lâcher, que hors normes bah, c'était ton bébé, une question, pourquoi ?
Il faut juste se rappeler du contexte, se remettre dans le contexte. On est effectivement en 2016, les problématiques que j'ai expliquées déjà dans plusieurs podcasts auparavant qui concernaient ma situation personnelle en tant que salarié de l'ex-agence de presse et qui a permis de faire vivre hors normes, de créer et de faire vivre hors normes, ils disparaissent d'un seul coup. Je suis rétabli dans tous mes droits. Je peux postuler à la retraite. J'ai déjà 64 ans, l'air de rien. Je peux postuler à la retraite. Je suis rétabli dans mes droits, c'est-à-dire que je suis sans aucun déficit financier. Tout va bien, tout va bien.
Oui, parce que tu n'avais plus de salaire depuis 2 ans.
Depuis deux
pour
ans.
Pour le rappeler, ouais.
Sans salaire, bon, on va pas faire pleurer Margot. C'est pas les misérables non plus, mais quand même. Et donc tout à coup, ça s'éclaircit. On est en janvier 2016. Tout s'éclaircit. Je suis rétabli dans mes droits. Je prépare mon dossier à la retraite, etc. Quand on part à la retraite comme ça, je l'ai découvert à cet instant-là, des amis m'en avaient parlé, qui m'avaient précédé sur ce chemin-là, c'est complètement automatique, dans sa tête, toute une perspective nouvelle s'ouvre. C'était théorique jusqu'à présent, et tout d'un coup ça devient matériel, parce qu'on calcule combien on va gagner pendant la retraite, etc. Avec les organismes spécialisés, c'est ça le jeu. Hein. Et tout à coup, du coup, ça fait dans la tête que toute une nouvelle perspective s'ouvre, et on est une espèce de croisée des chemins. Et moi, cette croisée des chemins, c'est du bon, pour l'anecdote, mais ça compte aussi, j'ai une compagne qui est plus jeune que moi, qui va devoir travailler encore pendant une dizaine d'années à Strasbourg, donc il n'est pas question pour moi de partir à l'autre bout du monde ou faire ce que je voudrais ou non faire. Simplement, je me dis, mais bon sang, je ne vais pas continuer à tirer ce qui est pas un fardeau, c'est génial de le faire, j'ai expliqué plusieurs fois, mais avoir ce souci permanent en tête, il faut rappeler que je fais tout, la pub, l'administratif, etc.
La rédaction,
la distribution, je m'occupe un peu de tout avec des gens qui m'aident, mais c'est une lourde responsabilité, je suis fatigué. Et je me dis en moi-même, on vient de sortir 20 et quelques numéros d'Hors Normes, 6 ans et quelques, donc j'ai plus rien à prouver là-dessus, évidemment. Mon bébé, il est né.
T'avais bouclé la boucle, quoi.
Oui, et puis surtout, je m'en rendais bien compte, très honnêtement, qu'à force de faire tout, le principal dans ce qu'on aime faire, c'est-à-dire le métier de journaliste, la rédaction, on le fait mal, de plus en plus mal. Moi, je m'en rendais compte. J'ai toujours été impitoyable vis-à-vis de moi. Je voyais bien quand les magazines sortaient, avec le recul, comme ça, l'angle d'un article, l'articulation d'un article, j'étais trop long sur certaines choses, je me maudissais moi-même, je me mettais des baffes à moi-même, quoi. J'étais pas content de moi-même. Et j'ai dit, bon, la retraite arrive, il y a une option qui est de changer complètement. Pour être honnête, j'avais des propositions d'éditeurs pour écrire des livres au long cours avec les voyages, etc. Il y avait une façon de dire, je vais lâcher et je lâche personne. J'étais presque déterminé à le faire. Et ça, je le confie effectivement, à un moment donné, à Patrick. Parce que dans cette année 2016, je crois que c'était au mois de mars, deux, trois mois plus tard, après le début de l'année, Patrick un jour m'appelle et il est tout heureux. Son projet, dont on avait abondamment parlé, Eden, va prendre naissance tout simplement parce qu'il a tout préparé, il ne lui manquait qu'une seule chose, anecdotique, le lieu. Et il venait de le trouver. Donc c'est l'actuel lieu de la rue des Aveugles avec la pizzeria actuellement, avec la brasserie et en face la galerie.
Ouais.
Tout ça appartenait à un magasin bien connu de certains Strasbourgeois qui vendait des produits de salle de bain, de luxe, etc. Gigantesque salle d'expo de part et d'autre. Le propriétaire était vendeur. Patrick venait de dealer avec lui. Il était tout heureux de me dire, parce qu'on a quand même été un petit peu à l'origine de l'histoire ensemble. Enfin, en tout cas, j'étais dans la confidence depuis le début, comme on le sait. Viens, je t'invite à déjeuner. Dans la foulée, je te montre le lieu. Et c'est dans ce déjeuner qu'il se passe un truc incroyable, c'est-à-dire qu'on en vient à parler. Bon, Patrick est au courant que pour moi la situation s'est éclaircie, il m'explique ses projets, parfait, tout ça. Et puis il me dit à un moment donné, et toi avec Hors Normes, bah, écoute-moi avec Hors Normes, je vais être à la retraite dans 2 mois, le temps de faire le dossier. Et je lui annonce que non, je vais arrêter.
Mais parce qu'une question, à ce moment-là, est-ce que toi, tu pensais vraiment arrêter définitivement le titre ou est-ce que tu songeais à le vendre éventuellement? Donc, quelle optique t'étais? Ou hors norme, c'est tellement toi, tellement ancré que dans tous les cas, tu ne l'avais même pas envisagé?
Je ne songeais pas l'arrêter tout de suite, déjà. Je voulais l'arrêter, c'était mon projet, de l'arrêter dans deux numéros suivants, c'est-à-dire à la fin septembre, parce que je tenais à être, encore une fois, le magazine des bibliothèques idéales.
Voilà, et qui t'avait un partenariat fort tous les ans avec un gros dossier spécial.
Je voulais boucler la boucle, honnêtement, vis-à-vis de François Wolferman, des bibliothèques idéales, et puis de ma propre passion pour la manifestation, la littérature, etc. Bon, bien connu. Déjà, c'était ça le projet. Et puis ensuite, le projet de vendre, non, ça, moi, j'ai jamais fait de la vente de hors norme un objectif financier. Il y a des gens qui fabriquent, qui montent un commerce comme ça pour que ça leur profite pour leur retraite. Moi, ça, j'ai jamais conçu ça comme ça. Et puis, il faut être honnête, on est à ce moment-là, en 2016, 8 ans après la crise financière et les bouleversements qu'on continue à sentir. D'ailleurs, on continue encore aujourd'hui à le sentir. Ça, on parle du Covid aujourd'hui, mais on a juste oublié un truc.
Dans un autre épisode.
Voilà, on a juste oublié un truc, c'est la crise financière de 2008 et le marasme financier.
Oui, donc pour toi, tu te dis, personne ne va racheter un magazine papier gratuit strasbourgeois.
À ce moment-là, Ornome a un site internet symbolique, je dirais, d'accompagnement, mais sans plus. Hein, c'est pas un vecteur de profit. Un magazine papier en 2016, tout à coup, ça vaut presque plus rien, quoi. Et puis de toute façon, comme c'était pas un objectif, j'y pensais même pas. Non, c'était vraiment d'arrêter. Et là, je confie cette envie d'arrêter à Patrick, qui alors là, elle tombe de la chaise, parce qu'il faut pas oublier quand même qu'il accompagne ce magazine depuis le début, sans autre intérêt que l'amitié et la passion pour ce qu'on fait. Et il me dit, mais attends, mais c'est pas question une seule seconde, quoi. Tu vas pas arrêter ce magazine maintenant que t'es sorti de la mouise, etc. Et que l'avenir est devant toi. Tu n'arrêtes pas. Et je lui dis, si, je suis fatigué. Je peux plus tirer. Je fais mal mon métier. Je finis par mal faire mon métier. Et ça, pour moi, c'est bien le pire, quoi. Et donc, du coup, il me dit, attends, et si je te trouve un repreneur? Tu accepterais de travailler avec ce repreneur comme ça? Alors, la question me désarçonne complètement. Ma première réponse était de lui dire oui, je sais pas, ça dépend de l'identité du repreneur, parce que c'est pas du tout question une seule seconde que je vende ce magazine, même pour de l'argent en profitant, à quelqu'un qui va le dénaturer et qui va en faire un énième gratuit avec public reportage bidon, etc. Ça, pour moi, c'est un enfer, quoi. Je veux dire,
plutôt tout arrêter que de le voir métamorphoser.
Je veux pas me promener à Strasbourg et voir mon bébé aux quatre coins de rue avec une vérole sur la figure et un gros furoncle, quoi. Ça, c'est pas du tout question une seule seconde, quoi. Et c'était ma première réaction. Il dit, oui, mais si le repreneur en question te garde toi. Je dis, ouais, mais qui garde moi, parfait, c'est bien, mais c'est pas ça.
C'est surtout quelqu'un qui garde ton projet de base.
Qui garde le projet, voilà, qui garde, qui tire le fil de ce magazine d'information, les journalistes, etc., ce qu'on a déjà dit. Il me dit, écoute, donne-moi 15 jours, et je sais que Patrick a un réseau fantastique, donne-moi 15 jours, et si je t'en trouve un, je te fais signe, mais ne ferme pas la porte tout de suite. Je dis, oui, volontiers. Bon, voilà, et on se quitte là-dessus, quoi, voilà.
Et il t'a fait signe, 15 jours après.
15 jours plus tard, il m'appelle, il me dit, écoute, voilà, j'ai trouvé quelqu'un. Alors, moi, je me rappelle très bien au téléphone. Hein. Je lui dis, mais qui? Ah non, ça, c'est pas question que je te le parle. Je t'en parle au téléphone. Viens, on bouffe quelque chose vite fait à midi et je t'explique. Bon, et à ce stade-là, franchement, je vois rien venir. Très honnêtement, parce que moi, je suis vraiment... D'abord, premièrement, c'est presque annexe, ça, le fait qu'il y ait un preneur. Sincèrement, c'est pour moi presque annexe. Enfin bon, bref, je vais déjeuner avec mon pote Patrick, comme quelques centaines de fois déjà à l'époque. Et là, il commence à me parler, et il ne tournait pas autour du pot, mais il parlait de autre chose, EDN, etc., qui était en construction et tout. Et à un moment donné, je lui dis, bon, alors, voilà, dis-moi, qui c'est ce repreneur? Oui, mais bon, voilà, il tergiverse. En fait, il s'amuse, mais je ne le vois pas. Et puis, il finit par me dire, ben, il est devant toi. C'est moi.
Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Enfin, j'imagine ta tête.
Ah oui, mais moi, je suis... Voilà, bon... Sans déconner, vraiment, je jure que jamais, une seule seconde, j'avais pensé à cette éventualité-là. Ma tête, j'ai dû être ahuri quand même, comme ça, j'imagine, quoi. Et voilà, je me suis dit, mais attends.
C'est surprenant, et en même temps, quand on connaît Patrick, c'est étonnant, homme amoureux des lettres.
À ce moment-là, je ne suis pas du tout dans cette logique-là, moi. Je suis ailleurs déjà, quoi. Je suis déjà en train de préparer autre chose. Je suis surpris. Et là, il m'explique dans son, comme tu dis, dans son, quand on le connaît, il est dans son projet et comme chacun sait maintenant, il le nourrit depuis longtemps.
C'est un nouveau challenge pour lui aussi, assez excitant, puisque c'est pas son métier
en plus. En plus, mais voilà, il voit bien l'articulation qu'il a déjà avec ce lieu qu'il va créer, ce lieu qui n'existe pas, qui n'est pas du tout subventionné par de l'argent public, mais qui se veut un lieu tel que la ruche à Montparnasse, on revient sur l'histoire, etc.
Oui, donc il le liait beaucoup à Eden, au fond.
Il le liait à Eden, à la galerie, à toutes les actions qui sont à côté d'Eden et à côté de la galerie, toute cette, cette mousse culturelle qu'il a l'intention de faire s'élever, vibrer. Et c'est vrai que c'est logique d'avoir un magazine. Voilà, donc ça s'est fait aussi naturellement que ça. Il m'a dit, bien entendu, tu restes avec moi, t'es directeur de la rédaction, rédacteur en chef.
Ah oui, donc à la fois, il te proposait de te racheter ton magazine, mais il t'offrait aussi un poste au sein
bien sûr.
De cette nouvelle équipe.
On s'est tapé dans la main en notre contrat.
Oui, ça s'est fait vite, t'as dû y réfléchir. Est-ce que t'avais d'instinct, t'as eu tout de suite confiance en Patrick, t'as pas douté?
On a mis une somme tout à fait symbolique, puisque moi, de toute façon, c'était pas là l'enjeu du tout, mais il fallait quand même mettre une somme symbolique dans le contrat. Je me rappelle la tête de notre ami avocat commun, Bernard Alexandre, quand il a cherché à nous faire mettre les raisons qu'il faudrait qu'on se séparait. C'est normal, dans un contrat, on essaie d'anticiper.
Vrai contrat de mariage.
Ah, oui, et nous, on disait que Patrick, enfin voilà, on disait, mais attends Bernard, t'es gentil, mais il n'y a pas de raison, nous c'est cool, tant qu'on s'amuse ensemble, on le fait. Si l'un des deux s'amuse plus, le dit à l'autre et on se quitte comme bons amis. Il dit ouais, mais ça n'existe pas dans un contrat normal. Enfin bon, bref, c'était des anecdotes assez marrantes, mais c'est vraiment ça quoi. Et c'est très plaisant de travailler depuis avec Patrick qui a finalement racheté officiellement. On a signé l'acte de mariage en juillet de 2016, de cette année-là.
Donc vous avez continué sur, je dirais, l'ancienne maquette sur deux numéros, donc septembre et décembre.
Ouais.
Et par contre, en avril, là, vrai nouveau chapitre, un peu le coming out de ce nouveau hors norme.
Alors, en avril,
pas 2017. Dénaturé non plus, hein, mais en avril 2017, oui.
Avec une nouvelle maquette, avec les gens d'Isaac, nouveau logo.
C'est ça, Isaac, donc agence de communication strasbourgeoise, partenaire aussi, qui nous suit depuis, qui est à nos côtés.
Tout à fait.
Donc une refonte totale.
Refonte totale.
Sauf dans la ligne édito.
À la ligne éditoriale, ça n'était pas question d'y toucher une seule seconde. Refonte totale avec une nouvelle maquette. Et du coup, Patrick, qui avait déjà une certaine idée de la façon dont il allait prendre les choses au niveau business, puisque évidemment, quand on publie un gratuit, il n'y a que la pub qui le finance, donc on n'a pas trop intérêt à se tromper sur le côté business, quoi, bien entendu. Envisageait déjà le club des partenaires, s'est mis à en parler, on était OK. Donc moi, je savais qu'avec la force de frappe de Patrick et sa puissance, il allait aboutir très vite positivement là-dessus. J'avais aucun doute, vraiment. Aucun
rapidement, doute. Le club des partenaires, donc c'est le club des partenaires hors normes,
oui.
Qui en fait sont des annonceurs, des entreprises,
oui.
Qui nous suivent à l'année.
Qui s'engagent, voilà.
Qui ont donc des parutions dans chaque magazine et avec qui on fait beaucoup d'événements, avec qui, on fait de très belles choses.
À ce stade, on peut presque dire, rendre hommage une nouvelle fois à Patrick et à sa vision des choses, parce qu'inventer cette notion, enfin, c'est pas une notion qu'il a inventée ex nihilo, elle existe déjà dans de nombreux autres partenariats en France, dans toutes sortes de choses, mais pour hors norme, à Strasbourg, à ce moment-là de l'histoire du magazine, imaginer un club des partenaires avec des pages vendues à l'année, c'est-à-dire un engagement de 4 pages minimum par année, donc une par numéro, avec des prestations annexes également, des invitations à des événements, etc. À titre privilégié, bien entendu, tout ça va avec. C'était avoir cette idée de génie de dire que si un jour il y a un paix au niveau économique, et bien entendu, à ce moment-là, penser au Covid, personne n'y pensait, bien entendu. Hein. Mais par contre, une énième crise financière, tout le monde avait ça en tête, parce que de toute façon, on n'est pas sorti de l'auberge même aujourd'hui avec ça. Hein. Bon, c'est un autre débat. C'était se garantir au moins une année de tranquillité. Et c'est-à-dire pas avoir l'angoisse du bouclage à chaque numéro du financement. Chose que j'ai eue pendant tout avant, moi, qui a été mon quotidien. C'est justement pour ça que j'étais fatigué. Et donc, on en voit aujourd'hui avec le Covid. Aujourd'hui, par exemple, on est au printemps 2021. On peut dire déjà, et c'est extraordinaire, qu'on a passé une année 2020 malgré le Covid superbe, puisque nos contrats étaient garantis jusqu'à la fin décembre. Donc, on n'a pas eu l'angoisse de savoir ce qui allait se passer, si le Covid allait impacter négativement nos comptes. Voilà. Et mais nos partenaires sont tellement contents du boulot qu'on fait, ils adorent tellement hors normes.
On espère,
on a pu le mesurer.
Ils renouvellent leur engagement.
Voilà, on peut dire aujourd'hui qu'on est au printemps 2021. De nouveau, notre année 2021 est complètement sécurisée. On a perdu deux partenaires, Bon, deux autres sont évidemment venus prendre
pour
la place.
Pour d'autres raisons économiques, puisque c'est compliqué
pour des raisons économiques, bien entendu. Quand je dis qu'on les a perdus, on les retrouvera. Mmh. On les a perdus en toute amitié, bien entendu. Mais bon, voilà, qui ne peut pas, ne peut pas. Mais d'ores et déjà, on est tranquille jusqu'en décembre 2021. C'est bien la preuve que cette idée-là était une superbe idée. Mmh. Et en même temps...
Et surtout ce qui s'y passe, parce que tu le sais... Autant que moi, on vit des beaux moments, des rencontres avec des écrivains. On sort de Strasbourg, on fait des événements à Paris, avec la Maison de l'Alsace notamment.
On faisait, parce que c'était à l'époque où il n'y avait pas le Covid.
Mais je suis encore très optimiste et nostalgique aussi. Mais ouais, il s'y passe quelque chose de fort et...
Toujours est-il que ça se développe bien. Je vais me dépêcher de dire tout ce qu'on a à dire sur ce numéro-là. Mmh. Donc, on a un coup de bol phénoménal. On a un très grand invité prestigieux, c'est Jean-Pierre Sauvage, qui vient d'avoir le prix Nobel.
Le grand entretien donc de ce nouveau numéro.
Le grand entretien du premier numéro de la nouvelle série, on va dire. Jean-Pierre Sauvage est un peu sauvage justement au niveau des médias. Il préfère faire son boulot de chercheur. Et alors les médias, ça le gonfle un peu. Quand il a annoncé comme prix Nobel, il doit faire face pendant 48 heures à une furie mondiale au niveau des... L'université a embauché une attachée de presse spécialement pour Jean-Pierre Sauvage, il faut le savoir. Hein. C'est l'ami Alain Berès qui préside encore l'université de Strasbourg, qui nous a beaucoup apporté aussi, qui m'avait raconté ça. Ça s'est calmé. Et quand on arrive, nous, après, trois semaines après, dans le bouclage traditionnel d'autres magazines pour demander un grand entretien avec Jean-Pierre Sauvage, sa première idée, c'est de dire non, c'est bon, hein. J'en ai bouffé jusqu'à plus soif des médias ces derniers jours. Et c'est grâce à Alain Berès qu'on obtient cet entretien. Et c'était super d'avoir cet homme qui est d'une modestie ébouriffante et d'un talent incroyable comme premier entretien du premier numéro de la nouvelle série.
Et juste une question, toi qui te projetais quand même dans ta nouvelle vie, tu voulais partir à la retraite, pourquoi t'as quand même accepté de rester ? Et qu'est-ce que ça a changé pour toi d'être encore dans ton rôle, ou peut-être plus que jamais dans ton rôle ?
La garantie justement, parce que c'est Patrick, parce que j'ai pas la peine de mettre des trucs sur des feuilles dans un contrat de 25 pages à la con avec un avocat, juste parce que c'est Patrick, la garantie que ce qu'il dit, Patrick, et tu as pu le vérifier de maintes fois depuis, il le fait. En tout cas, il essaye de le faire au maximum, parce qu'évidemment, et il a une probité extraordinaire. Et du coup, pour moi, c'est la garantie désormais d'entamer une nouvelle page de ma vie professionnelle, c'est-à-dire, alors c'est fou de le dire comme ça, juste faire mon métier tranquillement, sans être emmerdé avec tout le reste, récupérer l'argent des annonceurs qui payent pas, trouver des nouveaux annonceurs pour faire le joint à chaque numéro pour pas trop perdre d'argent, gérer les états d'âme de certains journalistes qui sont quelquefois des danseuses épouvantables, etc. Ouais,
toutes les relations publiques, tout ce qui est autour dont on ne se rend pas forcément compte. Mais
aller à des pinces-fesses sympathiques parce que c'est nos annonceurs, bien entendu, mais où moi, je m'emmerde à 6 sous de l'heure. C'est pas mon métier. Je suis capable de représenter hors norme et d'avoir du plaisir, mais mon métier, moi, c'est d'être journaliste. Et entre un reportage à l'impromptu et puis une inauguration de je ne sais trop quoi, moi, mon boulot, c'est de prendre la sacoche et d'aller au reportage. C'est pas de mettre la cravate, d'ailleurs, j'en mets plus depuis très longtemps, et de meurtre, voilà. Donc, Patrick, je le savais, allait prendre tout en charge, tout ce qui m'emmerdait dans mon métier, il allait le faire, et moi, j'allais pouvoir de nouveau refaire mon métier à fond avec mes journalistes, gérer une équipe. C'est juste un plaisir. Mmh. Parce qu'il faut dire que moi, comme retraité, je ne me projetais pas du tout. Mmh. Parce que, sincèrement, je vais faire...
Oui, tu n'arrêtais pas parce que tu étais lassé de ton métier.
Non,
le autour qui te...
Je vais faire la liste de mes tares personnelles. Alors, écoutez bien, les auditeurs, c'est pas tous les jours. Jardiner, je ne sais pas. Bricoler, quand je prends un outil, il y a un mort et trois blessés graves dans l'environnement. Cuisiner, j'ai aucune idée de la façon dont ça se passe.
Qu'est-ce que tu as fait pendant le confinement, Jean-Luc ?
Du micro-ondes. Mais j'ai une compagne qui cuisine bien. Je sais pas jardiner. Jouer à la belote dans une arrière-salle de café avec des copains du quartier, ça c'est juste le début du cauchemar pour moi. C'est pas question une seule seconde. À la pétanque, je le fais que l'été en Corse avec mes amis. Donc j'ai pas beaucoup de loisirs. Par contre, j'adore mon métier. Et du coup, merci Patrick, il m'a permis de le refaire.
En fait, c'est ta nouvelle retraite, c'est ça. C'est faire ton métier, c'est...
Voilà, sans être emmerdé par tout le reste.
Et j'imagine que ton équipe s'étoffe aussi ?
Oui, l'équipe s'étoffe. Du coup, on a plus de budget, donc plus de moyens. On recrute des nouvelles plumes, de nouveaux journalistes, de nouveaux rédacteurs. Du coup, ça n'a pas que l'importance de mettre plus de personnes autour de la table de la conférence de rédaction, dont on parlera dans un... prochain podcast, la façon dont ça se passe, mais ça veut dire que de nouvelles idées jaillissent, et le rôle d'un rédacteur en chef, et là il a besoin de toute son énergie et de tout son temps, c'est d'arriver à canaliser tout ça, à organiser tout ça pour que la ligne éditoriale du magazine soit conservée, pour que ça se développe en même temps. Et c'est pas simple, ne croyez pas que c'est simple, c'est compliqué ça de faire. Il faut du temps, il faut de la liberté d'esprit, c'est compliqué.
Tu nous en parleras dans l'épisode suivant.
Oui.
On va continuer à retracer l'histoire d'Ornan, mais de voir à quel point, puisque c'est vraiment un moment un peu clé dans l'histoire, à quel point le magazine continue à se développer et se développe même de manière assez fulgurante. Donc rendez-vous dans l'épisode 7.
Merci Lisa, à bientôt.